Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Augustine Yenge et le journaliste, rédactrice en chef de la Radio-Télévision Nationale Congolaise de RTNC Goma au Nord Kivu. Bonjour Madame Augustine Yenge. Bonjour Madame Augustine Yenge. Allô Madame Augustine Yenge. Willy Kalinga, il est directeur général de Géopolis Magazine, spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Bonjour Monsieur Willy Kalinga.
Bonjour Radio Capi, bonjour.
Et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahmane Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Bonjour également Abdou Dia.
Bonjour Guy, bonjour à tout le monde.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation d'Augustine Yenge, journaliste et rédactrice en chef de la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC Goma au Nord Kivu. Madame Augustine, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là en ligne.
Bonjour.
Oui, bonjour.
On n'a pas eu l'occasion de se saluer. Et aussi, Monsieur Willy Kalinga, qui est directeur général de Géopolis, magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles, et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahmane Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. On va commencer par un commentaire sur la Journée internationale des Nations Unies contre la corruption, célébrée ce vendredi 9 décembre. Cette Journée internationale de lutte contre la corruption est observée chaque année le 9 décembre depuis l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption le 31 octobre 2003 pour attirer l'attention du public sur les problématiques de lutte contre la corruption. Madame Augustine Yenge, le monde a célébré ce vendredi la Journée internationale des Nations Unies de lutte contre la corruption. Comment vous commentez la célébration de cette journée, Madame Augustine Yenge?
Oui, merci beaucoup Guy Maté. Je salue tous les auditeurs de la radio Capi où qui se trouvent et tous les invités à cette émission. Monsieur Guy Maté, comme vous le savez, la corruption est un phénomène social qui gangrène toute la société congolaise et ralentit considérablement le développement économique d'un pays, et cela peut aussi conduire au découragement des investisseurs. Et donc, cette journée a été déclarée, comme vous l'avez dit, depuis l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption, et c'était en date du 31 octobre 2003. Afin donc de sensibiliser le monde à ces fléaux qui gangrènent, soit qui rongent nos sociétés. Eh bien, la corruption fragilise la démocratie, comme vous le savez. Pour lutter donc contre ces fléaux, la Convention de l'ONU, adoptée en 2003, comme je l'ai dit tantôt, devrait pousser, prouver son efficacité en facilitant les poursuites judiciaires. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, comme vous me posez la question comment nous les célébrons, tout le monde sait que la République démocratique du Congo occupe la 169e place des pays les plus corrompus au monde. et ça c'est selon l'ONG Transparency International. À ce sujet, je suis d'accord avec la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO, qui recommande aux autorités congolaises de ratifier les conventions internationales, punir et sanctionner tous ceux qui s'adonnent au détournement des deniers publics et qui touchent au pot de vin et à la fraude. Et si on procède à cela, cela pourra renverser la tendance. Et selon toujours l'ONG Transparency International, la République démocratique du Congo perd chaque année 15 milliards de dollars américains dans les détournements de fonds publics. Avec de tels montants, monsieur Guimaté, des montants perdus dans les poches des individus, comment voulez-vous que les pays puissent atteindre les objectifs de développement? Comment voulez-vous que les budgets de notre pays puissent augmenter? Donc, des efforts doivent être fournis pour que la RD Congo ne soit plus citée parmi les pays les plus corrompus du monde. Elle doit donc tout faire pour quitter cette liste qui classe notre pays à la 69e place des pays les plus corrompus. Et surtout que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prône donc dans sa vision l'état des droits. Le matin de ce vendredi 9 décembre, toujours à l'occasion donc de la célébration de cette journée, j'ai suivi l'intervention du patron de l'IGF, l'inspection générale des finances, M. Gilles Alinguete, interrogé par nos confrères de la RFI, qui a affirmé que 80% des personnes poursuivies dans des dossiers de corruption en République démocratique du Congo sont couvertes des immunités, alors que dans un état de droit, tout le monde est égal devant la loi. Donc, il faudrait un changement de mentalité dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo, Guimaké.
Merci, Madame Augustine Yenge. Monsieur Willy Kalengai, que répondez-vous à cette opinion selon laquelle la lutte contre la corruption passe nécessairement par la lutte contre la pauvreté, contre la précarité et contre les injustices sociales?
Je suis d'accord totalement sur ça, parce que, de toutes les façons, il existe la petite corruption, celle qui naît de la pauvreté, de la précarité, qui touche d'ailleurs beaucoup d'entre nous. Mais il y a aussi la grande corruption, celle dont notre conseiller de Goma vient d'évoquer, celle qui touche les fonds publics, qui touche les marchés publics. Il est vrai aussi que, avec le temps, quand bien même nous serons dans un pays totalement prospère et riche, la corruption qui est quand même une maladie morale, une maladie de l'éthique, va perdurer. Il faudrait donc la combattre. Donc la corruption n'est pas que l'expression de la pauvreté, mais c'est aussi l'expression d'une autre pauvreté qu'on appelle la pauvreté morale. Voilà ce que je peux dire en liminaire.
Merci, Monsieur Abdourahmane Dia. Cette journée coïncide avec les travaux de la conférence internationale anticorruption qu'organise depuis mardi dernier Transparency International à Washington, aux États-Unis. Et il se dégage de ces travaux que la justice seule ne saura venir à bout de la corruption au regard de la puissance financière des corrupteurs et des corrompus. Et donc, selon les participants, il faut l'implication de tout le monde pour lutter efficacement contre la corruption.
Alors, vous avez raison, Guy. Quand la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, nous dit que l'Afrique perd près de 89 milliards de dollars chaque année dans ce qu'on appelle la fuite illicite de capitaux, ça, ce sont des chiffres qu'on connaît et qui font un peu froid dans le dos. Mais qu'en est-il de tout ce dont on n'est pas au courant, ce qu'on peut-être appelle la petite corruption, même si vraiment il n'y a pas de petite corruption? Quand le policier dans la rue, au lieu d'écrire un ticket pour que tu ailles payer, disons, au fisc, vous demande 1000 francs, ça, ce sont des chiffres qu'on ne peut pas quantifier. Bon, je prends juste l'exemple du policier, mais c'est pratiquement dans beaucoup de secteurs, malheureusement. Et là, c'est un problème. Et peut-être ceux qui se plient un peu à ces pratiques en acceptant de payer cette petite somme au lieu d'aller jusqu'au fisc ou...
En fait, mon point de vue sur la question de la corruption, il y a cette corruption qu'on peut peut-être évaluer avec la fuite des capitaux et autres. Il y a cette corruption, et mon collègue tout à l'heure parlait de la petite corruption, même si vraiment il n'y a pas de petite corruption. Et c'est là le problème, on ne connaît pas, on ne peut pas quantifier ce que ça nous coûte
en Afrique et tout cet argent qu'on pouvait investir dans les programmes sociaux, dans l'éducation, la santé, etc. Malheureusement, je peux dire, bon, 1 000 francs, c'est pas beaucoup, je peux donner 1 000 francs aux policiers pour ne pas perdre mon temps. Mais si nous tous, nous le faisons, c'est peut-être des milliards de dollars et à l'arrivée, c'est le pays qui perd, c'est le continent qui perd. Et notre façon à nous de contribuer à la lutte contre la corruption, c'est de refuser de payer. Qu'on va à la mairie, qu'on nous demande de payer pour avoir une pièce qui est vraiment de notre droit, nous devons refuser cela. Et même si cela va nous prendre du temps de rester à la mairie pendant des heures, je pense que c'est notre manière à nous de lutter contre la corruption au lieu juste de dire, ben écoute, j'ai pas envie de perdre des heures là-bas ou j'ai pas envie que le policier me fasse attendre ici. Nous avons notre responsabilité dans cette lutte contre la corruption.
Merci. On prend une petite pause avec Tolérance Zéro, rupture des Roga Roga et on revient tout de suite après.
Voilà, Roga Roga Missile, Maningina Loba. Oye koya heya. Soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga, na rapport a mabe epai ya chef na baninga bakoya. Qui ont une valeur la corruption d'abéji à bannir. Déstabilisation, y'a distraction, y'a mboka toboye. Je suis la voix des sans-voix. Oh, et l'Obami n'a fait, n'a pas mis du colo. Avec un salaire de 200 000, tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures, même construit les villas au 7e fan. Tout cela, avec l'argent que tu as volé à l'État. Vraiment mon Yibi. Avec les contrôleurs d'État très 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 corrompus, la République est devenue bananière, Biyoubipé et Léki. Cette fois-ci, on conduit à l'objet rupturé, ouvre bien tes oreilles, rupturé total. Pétrole aussi qu'à côté détourné. Mbango ya nzete paye kenda toye bité. Mbango ya impôt na douane impôt versé na trésor. Mbango la mérite au sengi décentralisation totale. Trafic d'influence et comment être mon abino. Bome la kabato, bokana kabato. Osala bato mabe, wonga na za famille ya chef, wonga na za mwana mokonzi, zéro, vraiment zéro. Mais ça n'a concours été, to examen pona kokoma mwana mokonzi na Congo. Yesa kaka grâce, hexe de zèle, yango mabe na Congo mokonzi ya lobby. Rupture est totale.
Roga Roga, artiste musicien de la République du Congo, auteur, compositeur, chanteur et guitariste. À travers ses chansons, il dénonce certaines antivaleurs, notamment la corruption. Et on revient à l'actualité de cette semaine, situation sécuritaire au Nord Kivu. Le Rwanda, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, accuse la communauté internationale d'exacerber la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Une région en proie à des groupes armés. Cette déclaration intervient après que Washington a appelé lundi 5 décembre de Kigali à mettre un terme à tout soutien supposé aux rebelles. Abdourahmane Ndia, on revient encore à vous. Vous êtes journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Vous intervenez depuis Washington, capitale des États-Unis. Et pourquoi, au sujet de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, votre rédaction a choisi cet aspect des choses, l'accusation de Kagame à l'endroit de la communauté internationale?
Alors merci Guy. En fait, c'est vraiment un des grands sujets chez nous ici cette semaine, puisque comme vous avez dû le constater, depuis le mois d'août, il y a une certaine constance dans la position de la diplomatie américaine sur cette crise qui sévit dans l'est de la RDC. Et Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a clairement dit et répété à plusieurs reprises que le Rwanda doit cesser son soutien au M23, ce qui veut dire clairement que selon Washington, le soutien du Rwanda au M23 est clair. même si Washington est considéré comme un allié de Kigali. Et donc, le secrétaire d'État américain a eu un entretien téléphonique cette semaine avec le président Kagame. Et l'a encore réitéré, et je suis sûr que c'est une question qui va aussi revenir la semaine prochaine lors du sommet Afrique-États-Unis. Donc, c'est juste intéressant de souligner cette constance. Bon, dans la position, au moins pour cette fois-ci, tout le monde sait, connaît un peu la position de Washington. Et maintenant, l'interprétation que le Rwanda en fait est peut-être est différente, parce que pour le Rwanda, la communauté internationale ne semble pas comprendre la situation dans l'est de la RDC. Et donc, pour nous, il était important de revenir sur cela et montrer que les États-Unis ont plus ou moins eu la même position depuis le mois d'août, depuis que le rapport des Nations Unies a pointé le Rwanda comme étant en soutien de M23.
Oui, dans la formulation de l'information, vous dites Washington a appelé Kigali à mettre un terme à tout soutien supposé aux rebelles. On sent une certaine prudence, soutien supposé. Est-ce le terme contenu dans l'appel de Washington ou c'est plutôt les choix de la rédaction de la Voix de l'Amérique?
La Voix de l'Amérique essaie tout le temps en fait de présenter la position de chaque camp. Et effectivement, nous avons bel et bien cité la position de Washington sur la question. Maintenant, je pense que à un moment, nous voulons juste, même si on dit supposé, je pense qu'il est clair dans le texte qu'on a fait que nous reprenons un peu la position des États-Unis qui dit que qui demande à Kigali d'arrêter son soutien au M23.
Merci. Willy Kalenga, directeur général de Géopolis, magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Lorsque cette communauté internationale, qui a toujours été considérée par une certaine opinion comme étant, n'est-ce pas, les soutiens au régime rwandais, est accusée par le président rwandais d'exacerber la crise dans l'est de la RDC, cela peut refléter quoi? Une simple diversion ou un véritable malaise dans les rapports entre Kagame et cette communauté internationale?
En tout cas, pour les Congolais que nous sommes, mais surtout pour les journalistes, il faut quand même souligner que c'est un changement majeur dans la communication de la communauté internationale par rapport au Rwanda. Pendant de très très longues années, le Rwanda c'était le chouchou, le Rwanda était en tout cas l'havre de paix, personne ne pouvait toucher au Rwanda sans éveiller en tout cas la curiosité, sinon la protection de la grande nation des Américains. Mais je pense qu'il y a quand même un changement qui est intervenu, qui n'est pas encore fondamental et substantiel. C'est un changement qui est dû beaucoup plus aussi à la diplomatie congolaise, mais aux prises de position du chef de l'État congolais, qui, il faut le reconnaître, a pris position déjà au niveau des Nations Unies, en citant mainement le Rwanda. Il y a eu effectivement des missions des Nations Unies qui sont arrivées ici, qui ont identifié effectivement la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais. Face aux évidences, même les plus grandes amitiés font un tout petit peu de la réserve. Je ne pense pas que ce soit une distanciation entre les régimes du président Kagame et les États-Unis, qui sont quand même en grande partie les soutiens du peuple rwandais et de son régime. Je suppose quand même qu'il y a eu un changement. Ce changement est dû aux évidences. Nous sommes dans un monde où la communication fonctionne aujourd'hui très 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 rapidement. Les images, les drones ont pris des images. Je pense qu'il y avait un problème de bonne foi et de bon sens. Les États-Unis ne pouvaient pas continuer à se cacher derrière des rapports non formulés par les Rwandais ou par les Congolais, mais ils étaient obligés d'une certaine manière de reconnaître que le Rwanda était au Congo, parce qu'ils sont les derniers à le reconnaître, alors que l'ensemble de la communauté africaine l'a déjà reconnu.
Madame Augustine Yenge, journaliste, rédactrice en chef de la radio-télévision nationale congolaise RTNC Goma au Nord Kivu. Vous venez de suivre M. Willy Kalengai qui estime que c'est un changement majeur, n'est-ce pas, dans la communication des Américains vis-à-vis du Rwanda. Et à votre avis, toutes ces pressions internes et internationales pourraient faire fléchir Paul Kagame?
Oui, Monsieur Guy Maté, de ma part, il est vraiment étonnant d'entendre de telles déclarations de la bouche du ministre rwandais des Affaires étrangères. Monsieur Vincent Biruta, c'est que moi je qualifie franchement de distraction. Au moment où tout le monde sait qu'il y a des puissances étrangères qui sont derrière les Rwandais, qui leur servent des portes d'entrée avec l'idée cachée derrière leur tête de balkaniser la République démocratique du Congo à partir de sa partie orientale et faire de nos richesses leur apanage, la RDC apparaît comme un enfant mal aimé, ça c'est moi qui l'ai dit, de la part de la communauté internationale, qui ne s'intéresse qu'à nos richesses. Aujourd'hui, nous apprenons que le nombre de personnes tuées au Rwanda voisin lors du génocide en 1994, est inférieur à celui de la République démocratique du Congo. Mais que dit donc cette communauté internationale? Au contraire, elle profite de cette période trouble pour piller nos richesses. La communauté internationale ne veut pas qu'il y ait la paix en RDC. Et nous disons qu'il est vraiment temps que la guerre cesse. Les Congolais ont besoin de la paix. Les Congolais ont besoin de la paix, franchement, pour s'occuper du développement de leur pays. Car notre bonheur, oui, le bonheur de nos enfants, le bonheur des enfants de nos enfants, dépend de ces beaux et vastes pays dans lesquels Dieu nous a établis, car c'est lui qui établit les rois. Guimaté.
Merci, Abdouhamane Dia. Je vous repose la même question que j'ai posée à Madame Augustine Yenge. Est-ce que vous pensez que toutes ces pressions internes, hein, on sent même au niveau de la RDC des actions, vous pensez que toutes ces pressions internes et internationales à travers les injonctions que la communauté internationale a en train de donner à Kagame pour qu'il cesse de soutenir la rébellion du M23, vous pensez que ces pressions pourraient faire fléchir le président rwandais?
Ben, on l'espère. Moi, je pense qu'en tout cas, pour ce qui est des États-Unis, que je suis un peu, il est clair que depuis un certain temps, la position est beaucoup plus tranchée. Il est évident que la diplomatie, le langage de la diplomatie est toujours différent de celui peut-être d'un membre de la société civile ou d'un commentateur politique. Mais quand on voit un peu le discours d'Anthony Blinken, je pense qu'il a été très clair et peut-être les États-Unis sont aussi un grand allié de la RDC, il ne faut pas l'oublier. Donc il n'est pas, à mon avis, dans l'intérêt de Washington de voir cette zone s'embraser davantage, d'autant plus que je pense que le président Tshisekedi a des rapports très corrects avec l'administration américaine. Et je pense que Blinken va continuer à peser de tout son poids pour qu'au moins le M23 se retire des zones qu'elle a conquises dernièrement. Et maintenant, on verra ce qui va se passer. Le Rwanda continue de dire qu'il faut séparer le Rwanda du M23. On va voir ce qui va se passer. Maintenant, il y a des choses qui se passent en coulisses, peut-être que nous, on ne maîtrise pas. Mais il est clair que le discours de cette administration sur la crise dans l'Est de la RDC est, à mon avis, très clair.
Monsieur Willy Kalinga, jusqu'où cette communauté internationale pourrait-elle aller dans les pressions à l'endroit du Rwanda? Est-ce que si le gouvernement rwandais refuse de se conformer à tous ces appels de la communauté internationale, est-ce que les États-Unis ou la communauté internationale peut aller jusqu'à prendre des sanctions formelles contre le Rwanda?
Je doute encore très fort que ça puisse aller jusque-là. Parce que déjà que l'on dénonce l'agression, déjà que l'on dénonce les massacres, où sont les sanctions? Le régime de Kagame n'a jamais été sanctionné. En tout cas, à ma connaissance, je ne vois pas, même lui, Kagame n'a jamais été sanctionné, malgré les rapports des experts des Nations Unies, malgré les rapports de Transparency International, malgré les rapports des ONG du Nord, la communauté nationale, pour elle, Kagame n'a jamais été. On ne peut pas le sanctionner. Je ne sais pas pourquoi. Parce que hier, l'Union européenne a sorti une liste des gens qu'il faut sanctionner. Vous allez voir dans cette liste-là, il n'y a pas le gouvernement rwandais, même pas un cadre, même pas un général rwandais. Et pourtant, ils sont opérationnels au niveau de notre territoire. Je me dis que, évidemment, avec le Rwanda, la pression peut suffire. Parce que, n'oubliez pas qu'en 2012, les M23 avaient occupé la ville de Goma et que la pression venue des États-Unis a fait fléchir effectivement, parce que ce sont des armées qui sont sous commande. Ils sont en mission. Donc, si les commanditaires déchangent de vie, je crois qu'ils vont se retirer. Mais penser que les Américains vont envoyer des militaires pour venir déloger les Rwandais qui sont au nord de Kivu, je pense que les Congolais doivent cesser de rêver. Et s'il faut les déloger, c'est l'armée congolaise qui fera ce travail.
Chères auditrices et chers auditeurs, l'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons écouter cette nouveauté de Fally Ipupa en featuring avec la Camerounaise de Charlotte Dipanda dans Garde du cœur, et on revient après.
Monsieur le ministre, vieux Nabiso Hugues Ngolo Dele, Tikato et Melalissou, c'est maman, mais Oyo Tokolo Balelo, il est au Tolo Bagilobi. Garde du cœur, Danisa Ninel. Goma marron. Nama Bokono Nazonga Kase nourrissant choyé. Ton sourire nourrit toute mon âme. Anissa, ta peau a le parfum le plus agréable. Laisse-moi m'étendre sur ton corps. Nama Bokono Nazonga Kase nourrissant choyé.
Mon nom s'appelle Ngolo Ndele. Il est né à fait de moi un rêve. Regarde là où la vie nous mène. Namaboko non azoka kase nourrissant choyé.
Ninel, tes yeux, tes lèvres et ton sourire. Et comme il s'en a fanatique n'ayant mon amour. Liqueur mon côté, vin, whisky, ton champagne. Pourrait concurrencer l'ivresse de ton amour, Ninel. Parmi bas portraits multiples, Léonard de Vinci. Toi, à Claude Monet, toi, Paul Cézanne, toi, Henri Matisse. Peinture, mon côté, zo, avoisiné, valeur. Adam, ok, Aliza, Kaya, auriculaire, naïo, chérie. Laisse-moi t'aimer toute ma vie, n'a pas la côte tous les jours. Chaque seconde passée à tes côtés, comme mon amour, amour.
Toutes les nuits, t'es ménia chérie, n'a pas la lune de miel. Pour se cracher à bonheur, y'a n'a mais n'a paradis. Toi et moi, amour, y'a zéro du fond.
Maintenant, mesdames et messieurs,
Radio Okapi. Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur la journée internationale des Nations Unies contre la corruption, célébrée ce vendredi 9 décembre. Nous avons également analysé l'accusation de Paul Kagame contre la communauté internationale au sujet de l'insécurité dans l'est du pays. Participe à cette émission, Madame Augustine Yenge, elle est journaliste et les rédactrices en chef de la Radio-Télévision Nationale Congolaise de RTNC Goma au Nord Kivu. Willy Kalengai, directeur général de Géopolis, magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahmane Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Un autre fait d'actualité, c'est l'accord entre Glencore et le gouvernement congolais autour de 180 millions de dollars comme transaction compensatoire pour les actes de corruption opérés en RDC. Le groupe Glencore versera 180 millions de dollars pour les comptes de ses sociétés liées en RDC accusées des faits de corruption pour toutes les actions présentes mais aussi futures pour des faits commis entre 2007 et 2018. Ces informations sont contenues dans un communiqué de presse rendu public lundi 5 décembre. Ces communiqués précisent que cet accord porte notamment sur des activités de certaines filiales du groupe qui ont déjà fait l'objet de diverses investigations, notamment par la justice américaine, la cellule nationale des renseignements financiers, ainsi que les ministères de la justice et de la RDC. Monsieur Willy Kalengai, l'édition de votre magazine Géopolis a fait état de cet accord entre le gouvernement congolais et le groupe Glencore. Est-ce que vous pouvez nous parler des tenants et les aboutissants, n'est-ce pas, de cet accord?
J'en parle avec joie, d'autant plus que nous en parlons le jour même où on célèbre la journée de lutte contre la corruption. C'est quand même une bonne nouvelle dans ce monde où nous avons tendance à ne récolter que les mauvaises choses. Pour une fois, un pays africain va quand même être à l'oubli par un combat des valeurs. Il faut reconnaître que depuis quelques années déjà, le département américain, avec d'autres services américains, avait commencé à soupçonner la multinationale Glencore d'avoir agi pendant une certaine période de son existence par des pratiques de corruption pour obtenir un certain nombre de faveurs dans des pays africains. Et cette enquête a abouti à une condamnation par la justice américaine de Glencore. Et Glencore a reconnu les faits au niveau mondial et s'est engagé à les réparer. D'abord en ajustant sa propre politique en interne, mais surtout aussi en adoptant ce qu'ils appellent aujourd'hui un programme d'éthique et de conformité. Alors, parce qu'il s'agissait aussi de notre pays, la RDC, où se sont déroulés ces supposés actes de corruption, le Congo était inquiet pour savoir, mais et dans tout ça, dans cette transaction-là, qu'est-ce que nous allons récolter? C'est comme ça que le ministre de la Justice de notre pays, avec la Cellule nationale des renseignements financiers, vous l'avez dit, les CNRS, ont entrepris cette démarche, se sont approchés de l'ensemble des acteurs, mais surtout aussi des Glencore, pour obtenir cette transaction financière qui est de 180 millions de dollars que le Congo va recevoir parce que ayant été préjudicié pendant cette période-là par des pratiques qui ont de certaine manière empêché le pays d'obtenir des ressources substantielles. Parce que la corruption, c'est aussi cela, c'est de prendre des fonds qui doivent aller au trésor public pour son compte privé. Voilà ce que je peux dire sur cette transaction qui, à mon sens, est une très grande avancée et ça pourrait en fait devenir même un cas d'école pour d'autres corrompus qui sont en train de décimer toute la République qu'il faudra traquer, arrêter et leur faire payer ce qu'ils avaient fait.
Oui, vous parlez d'une grande avancée et que répondez-vous à ces ONG de lutte contre la corruption qui dénoncent une corruption à grande échelle au sujet de cet accord?
Comment il y aurait encore une... Il faudrait que nous fassions la part des choses. Une entreprise fait l'effort, qui est d'ailleurs rare, et ça, il faudra me prouver le contraire, de reconnaître que ses propres cadres, ses propres sociétés affiliées ont agi de manière condamnable et acceptent de réparer cela, non seulement en changeant ses méthodes de travail, mais surtout en payant ces transactions, ces montants-là. Alors, quand on parle de grande corruption, grande, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a corrompu le Congolais pour lui payer l'argent de la corruption? Ou bien que ça serait à quel niveau de tirer dans cette compensation-là la corruption? Je ne vois pas qu'il y ait corruption. Je pense quand même que il y a eu un effort majeur de la Cellule nationale des renseignements financiers d'aller jusqu'au cœur du dispositif de Glencore et d'obtenir cet accord pour le Congo. D'autres pays, notamment le Brésil, le Nigeria, vont aussi, l'Afrique du Sud, pourront obtenir aussi ce genre de compensation.
Madame Augustine Yenge, c'est après avoir été accusée d'effets de corruption pour toutes les actions présentes, mais aussi futures pour des faits commis entre 2007 et 2018, que Glencore a accepté de payer 180 millions de dollars américains. Et peut-on dire que pendant une période de 11 ans, les actes de corruption posés par Glencore ont fait perdre au gouvernement congolais seulement 180 millions de dollars parce que c'est ce qu'on lui demande, n'est-ce pas, de payer?
En tout cas, moi je me dis, mais les groupes Glencore qui s'engagent à verser 180 millions de dollars au gouvernement congolais, les questions que moi je me pose, elles sont celles de savoir, est-ce que le groupe s'est aussi engagé à bannir la corruption? Est-ce que les pratiques de ces groupes ont changé parce que nous avons appris qu'à part la conclusion de cet accord entre la RDC et le groupe Glencore pour clore les dossiers de corruption que ces derniers avaient pratiqués afin d'acquérir des actifs miniers dans les pays entre 2007 et 2018, le groupe a d'autres dossiers particulièrement celui des contentieux fiscaux de 2018 à 2020. Selon les rapports de la Commission économique, financière et la bonne gouvernance de la Chambre haute du Parlement, qui fait état de l'annulation par les gouvernements des impôts d'une valeur de plus de 700 millions de dollars américains pour les exercices budgétaires de 2018 à 2020. Et donc, je crois que ces groupes doivent plus que 180 millions de dollars à la République démocratique du Congo. Et je me demande aussi si base de quoi le gouvernement a annulé les paiements de ces impôts. Est-ce que l'administration fiscale a été saisie? Donc, c'est autant de questions que je me pose. C'est pour dire que ces groupes doivent plus que 180 millions de dollars à la République démocratique du Congo.
Abdourahmane Dia, depuis un certain moment, la RDC semble avoir opté pour des accords à l'amiable avec certaines entreprises multinationales en signant des conventions pour des actes répréhensibles que ces entreprises auraient posés. On se rappelle récemment l'accord entre le gouvernement congolais et le groupe Ventora de l'homme d'affaires Dan Gettler qui a permis à la RDC de récupérer les blocs pétroliers tenus par ces groupes. En contrepartie de cela, l'État congolais est tenu, n'est-ce pas, à payer à Ventora 240 millions de dollars pour compenser les pertes dues à l'investissement du groupe Ventora. Et certains experts pensent que c'est plutôt le gouvernement congolais qui est perdant, n'est-ce pas, dans ces différentes conventions. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui peut, à votre avis, expliquer que la RDC puisse opter pour une telle approche?
Bon, moi, je pense que des fois, comme le dit l'adage, il est mieux d'avoir un bon arrangement un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est vrai que des fois, il n'est pas mauvais de voir ce qu'on peut avoir comme compensation plutôt que d'aller dans des procédures qui peuvent prendre des années et on ne sait pas ce qui va se passer. Et je pense que la RDC n'est pas le seul pays à le faire. Glencore avait aussi accepté de payer ici aux États-Unis une amende, je crois, de 700 millions de dollars pour fraude et corruption. Et peut-être que si la procédure allait jusqu'au bout, on ne sait pas peut-être que les États-Unis, en tout cas Glencore aurait payé plus, mais on ne sait pas combien d'années ça allait prendre. Et ce sont des pays comme le Brésil, le Cameroun ou le Nigeria qui vont bénéficier de ces fonds, puisque ces faits auraient été commis par Glencore dans ces pays-là. Mais il est évident que je pense que des fois ce sont des décisions politiques qui peuvent servir aussi, en sachant que ces pays, même si on peut peut-être estimer que ces sommes pourraient être beaucoup supérieures à celles que la compagnie paye. Peut-être on se dit qu'à l'arrivée, peut-être il vaut mieux au moins que cela serve d'exemple, que de toute façon les actions de corruption ne resteront pas impunies et qu'un jour ou l'autre, il faudrait payer. Donc moi je pense que c'est une décision sage aussi du gouvernement congolais à un moment de dire, écoutez, trouvons un compromis et que le monde entier sache que chez nous au Congo, si les actes de corruption sont répréhensibles.
Oui, on revient à vous, Willy Kalengai. Dans vos enquêtes, votre magazine Géopolis a-t-il tenté, n'est-ce pas, de comprendre les manques à gagner qu'a enregistré le gouvernement congolais du fait, n'est-ce pas, des actes de corruption de Glencore pendant cette période de 11 ans?
Évidemment, il est presque impossible de le savoir parce que, en réalité, c'était dans les procédures, dans l'obtention de certains nombres de droits, dans l'obtention de certaines facilités, par exemple pour gagner du temps, par exemple pour l'exportation de certains produits, par exemple pour les visas de certains travailleurs. Il y a effectivement dans le pays, et n'oubliez pas, s'il y avait un corrupteur, il y avait des corrompus, et les corrompus, c'est des Congolais, c'est l'administration congolaise, dont le gouvernement, d'une certaine manière, ne peut pas dire qu'il est simplement victime, parce que ce sont ses propres agents, ce sont ses propres cadres, ses propres responsables, parfois même des responsables de très haut niveau, qui se sont prêtés à cette corruption. Il est aussi vrai, qu'il ne faut pas l'oublier, que Glencore fait partie quand même des plus gros contributeurs dans les budgets nationaux. En tout cas, parmi les plus gros, avec ses deux grandes exploitations, notamment du cuivre et du cobalt, Kamoto, KTC et Mumi, ce groupe fait partie du dispositif national industriel par lequel l'État a des ressources. Donc, il faut savoir ménager aussi les partenariats en interne. Je crois que le gouvernement a voulu couper la poire en deux. Certes, 180 millions, ce n'est peut-être pas ce qu'il fallait, peut-être. Mais 180 millions aujourd'hui, payés immédiatement, c'est quelque chose qui va certainement aider le gouvernement à régler un certain nombre de problèmes. Le manque à gagner, il y en aura toujours, mais le fait qu'il y ait déjà cette conscience de travailler en synergie entre les ministères de la justice, surtout la cellule de renseignement financier, les gouvernements américains et le gouvernement congolais, je pense qu'ils sont en train de créer une plateforme qui va impacter sur une nouvelle culture dans la gouvernance des ressources naturelles. C'est pourquoi j'ai dit au début de mon intervention que moi j'étais heureux parce que ça c'est quand même quelque chose de nouveau. Pendant de longues années, c'était de l'opacité totale, non seulement sur les montants payés, mais surtout aussi sur les montants même versés au trésor public. Je crois que je suis optimiste que nous sommes sur la bonne voie.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Ayez pitié de Josti Kiambokuta et on revient après.
Kaninge moninga akulila yo
Susia bolingo na koniko baba Joto mogima eko mine kokolo Maina sara nini mafangia beso Oli sumo na sala Maina rubana swateo Soti poteza la kiyaka Nena rubaki na bonde My masala, my boni, mama. My makile inasoto bampangie. Nanya sala, my boni, mama. Nava nava mobile. Nasala kanyo solo papa. Boni mosoki eboti matasi. No dia tininga.
Nous sommes en 1988, Josky Kiambokuta compose ses classiques et pitié avec la collaboration de Dalian CNT Sanzitani et de Serge Kiambokuta Lenvo. Josky Kiambokuta et Dalian CNT Sanzitani étaient de l'orchestre Oke Jazz de Franco Lombo Mekiadi et Serge Kiambokuta Lenvo était un ancien des Kamikaze Loningisa de Ilu Mabiala de la République du Congo et aussi ancien de l'orchestre VV de Kiamangana Mateta. Tous nous ont quittés peu à leurs âmes. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Augustine Yenge, elle est journaliste et elle est rédactrice en chef de la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC Goma au Nord Kivu, Willy Kalenga, directeur général de Géopolis, magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles, et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abraham Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. La situation des déplacés de guerre dans le Nord Kivu, plus particulièrement à Kanyaruchinya, a aussi défrayé la chronique cette semaine en RDC. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a invité lundi 5 décembre toutes les couches de la population congolaise à s'approprier l'appel à la solidarité lancé par le président Félix Antoine Tshisekedi en apportant leur contribution à la caisse des solidarités nationales en faveur des déplacés internes éparpillés dans les provinces en proie à l'insécurité. C'était à l'occasion du lancement de la campagne de solidarité en faveur des déplacés dans les régions à conflit armé. Le Premier ministre a remis ce même lundi à Kinshasa un chèque de 20 milliards de francs congolais, environ 10 millions de dollars américains, au ministre des Affaires sociales, solidarité et action humanitaire. Madame Augustine Yenge, vous avez à la RTNC Goma traité, n'est-ce pas, de la situation des déplacés des Kanyarutunyans. On sait qu'ils vivent dans des conditions difficiles, les épidémies ont commencé à se déclarer, on parle du nombre des cas de choléra qui est en augmentation. Et qu'est-ce que vous avez découvert d'autre que vous pouvez partager avec nous, Madame Augustine Yenge?
Merci à vous, Monsieur Guimaté. Je voudrais d'abord commencer par décrire la situation de ce qui se passe à Kanyarutunya, parce que c'est presque chaque jour que nous couvrons ce qui se passe là-bas. Et pas plus tard que jeudi, nous étions au camp des Kanyarutunya. Mais laissez-moi vous dire franchement que la situation des guerres qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo et qui a poussé des centaines de milliers de personnes venus de différentes zones sous occupation de l'ennemi, notamment à Rutshuru et Nyiragongo, sans oublier ceux qui sont dans la partie nord de la province. Cette situation a poussé des populations à un déplacement massif, spécialement ceux venus des territoires de Rutshuru et Nyiragongo, comme je l'ai dit tantôt, regroupés au camp des Kanyarutunyans. Et ils sont des centaines de milliers de populations, comme je l'ai dit aussi tantôt, qui vivent dans des conditions très précaires, en commençant par le manque d'eau, parce que le camp des Kanyarutunyans, il est situé en territoire de Nyiragongo, un territoire qui n'a aucun cours d'eau depuis sa création. Et ce sont les maladies des mains sales qui sont enregistrées. Et il y a déjà des malades donc qui présentent des signes de choléra, comme vous l'avez dit, et qui sont prises en charge par l'agent de santé de Nyiragongo, mais avec aussi ses faibles moyens. Ajoutez à cela le manque de nourriture. Il y a également des cas des enfants de moins de 5 ans qui sont frappés de malnutrition sévère, des femmes enceintes qui trouvent difficilement à manger et ne sont pas soumises aux consultations prénatales, certaines. Les femmes allaitantes qui sont affaiblies et qui ne peuvent pas allaiter correctement leurs enfants, faute de nourriture. Des vieillards, des personnes vivant avec handicap, mais personnes vivant avec les VIH, le SIDA, les PVV, avec des difficultés d'approvisionnement aux médicaments anti-rétroviraux. Bref, c'est vraiment une catastrophe humanitaire qui se vit à Kanyarutunya. Il faut arriver sur place pour s'en rendre compte, franchement. Et toutes ces personnes exposées aux intempéries, parce qu'il pleut presque chaque jour dans la zone, toutes ces personnes passent des nuits à la Belle Étoile. Les abris sont construits en bâche, et met en nombre insuffisant. Il y en a même qui utilisent les moustiquaires, vous vous rendez compte? Des moustiquaires comme abri. Et quand il pleut, imaginez la suite. Face à cette catastrophe, tout Congolais devra se sentir concerné par la misère qui frappe nos compatriotes dans leur propre pays. Ils sont dans leur propre pays, franchement, en posant des actes de solidarité en leur faveur. Il est vrai que le gouvernement de la République et ses partenaires, ils ne cessent de faire quelque chose, comme vous venez de le dire tantôt, qu'il y a une caisse de solidarité, ça c'est la campagne de solidarité lancée en faveur de nos compatriotes, mais il est difficile de satisfaire tous ces mondes. Dernièrement, il y a l'Angola qui a envoyé aussi des tonnes de vivres grâce à la coopération de ces Angola et tant d'autres, mais ces déplacés de guerre n'ont qu'un seul souhait, tout comme le reste des Congolais, c'est le rétablissement rapide de la paix afin que ces derniers retournent dans leurs milliers respectifs métigimatés.
Merci, le rétablissement rapide de la paix. Monsieur Willy Kalengaï, un pays qui fait face depuis plus de 20 ans à des conflits armés, logiquement, c'est un pays qui est censé être préparé à faire face aux problèmes tels que celui des déplacés. Et pourquoi, à votre avis, la RDC n'a toujours pas mis en place n'est-ce pas une sorte de stratégie à même de lui permettre de ne pas être débordé chaque fois que les populations sont obligées par la guerre à quitter leur milieu d'origine?
Oui, parce que même si vous avez mis en place une stratégie, je crois qu'elle existe, le plan de contentement existe dans le pays, mais il faut des moyens pour cela. Il faut préparer aussi les terrains. Le problème qu'il y a ici, c'est que le terrain des opérations est un terrain extrêmement accidenté. Les populations vivaient dans une zone, malheureusement, il n'y avait pas encore de conflit, mais dans une zone quand même rurale qui avait des difficultés déjà au quotidien. Donc, des infrastructures de base n'existant pas. Donc, une population qui vit déjà mal à l'origine et qui subit maintenant cette pression par rapport à la guerre, elle est malheureusement vouée à la précarité. Il est vrai que nous ne pouvons pas, en tant que pays, avoir des possibilités systématiquement disponibles pour pouvoir résoudre les questions des catastrophes. Mais n'oubliez pas que c'est toujours dans cette zone-là, pays éruption volcanique, dans cette zone-là, il y a tellement de problèmes d'insécurité à l'est du pays que la population devient malheureusement exposée chaque jour à des difficultés. Je pense que la paix, comme vient de le dire tout à l'heure notre consoeur, il faut que la paix revienne et revienne le plus vite possible. C'est ici où moi j'ai dit, ne nous habituons pas à installer nos propres compatriotes dans des situations de précarité, dans des camps. Il faut que tout soit fait par notre armée, par notre gouvernement, pour que la paix revienne. Cette paix-là, elle doit être imposée. Parce que si elle n'est pas imposée aujourd'hui, la situation de nos compatriotes va perdre.
Alors, apparemment, on l'a perdu, on va essayer de les rappeler. Abdourahmane Dia, la situation des déplacés internes comme celle des réfugiés s'est toujours posée avec acuité dans les différents pays africains en proie à des conflits armés et aux catastrophes naturelles. Et chaque fois, on tend la main aux humanitaires, aux partenaires extérieurs. Et comment les gouvernements africains devraient-ils gérer efficacement la situation des déplacés internes et des réfugiés au lieu de laisser toute la charge aux humanitaires comme on les constate souvent?
Et vous avez parfaitement raison, que ce soit dans l'est de la RDC, que ce soit en Somalie, que ce soit dans le Sahel, c'est des centaines, des dizaines de milliers de réfugiés, de déplacés internes aussi, qui quittent leur foyer pour trouver refuge dans des endroits peut-être plus sécurisés. Et encore, le recours aux humanitaires, en fait, c'est parce que les États n'ont pas vraiment les moyens de faire face à ces crises. Ce sont de véritables crises qui demandent en fait beaucoup de fonds, mais également une assistance médicale et tout le reste. Il faut que ces enfants aillent à l'école, même s'ils sont déplacés. Donc c'est juste une question de moyens, à mon avis. Et tant que la situation de nos États est en l'état, en fait, dans cette situation actuelle, je pense qu'on aura encore besoin de ces organisations humanitaires qui sont là et peut-être qui ont cette capacité de mobilisation de fonds que beaucoup d'États n'ont pas, malheureusement. Et la solution, c'est vraiment le rétablissement de la sécurité, le retour à la paix, la fin des conflits dans toutes ces zones, que ce soit dans le Sahel, dans l'est de la RDC, les Grands Lacs, que ce soit en Afrique de l'Est, notamment à la partie somalienne, à la frontière avec le Kenya. Donc c'est tout cela à la fois. Tant qu'on ne résout pas les crises, il y aura des déplacés, des réfugiés, et malheureusement, nos États en Afrique n'ont pas les moyens à eux seuls de faire face à cette crise, malheureusement.
Willy Kalinga, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Il n'y a pas que Kanyaruchinya, il y a aussi tous ces déplacés à Ituri et dans les Maïndombé. Vous étiez en train de proposer des pistes de solutions.
Oui, je vous ai dit que quand vous lisez l'accord de Luanda, le communiqué final de la rencontre de Luanda, pour être précis, il y a dans ce communiqué une décision qui a été prise pour le retour des réfugiés et des déplacés. Dans le conflit qui est à l'Est, il y a une dimension essentiel dans la question des réfugiés et des déplacés. Il y a beaucoup de déplacés en interne et ces déplacés ne peuvent malheureusement rentrer chez eux si nous ne faisons pas un effort de solidarité nationale. Le gouvernement n'a pas toujours les moyens de faire face aux questions des vies comme celles qui se posent aujourd'hui à l'est du pays. Le Congolais doit se sentir concerné par la tragédie et la détresse dans laquelle d'ailleurs, qui nous a été très bien dépeinte par notre conseil tout à l'heure. Donc, il y a d'abord ce problème des réfugiés, parce que si ceux qui sont Congolais dans leur pays, qui fuient la guerre, doivent rentrer dans leur territoire d'origine pour y trouver le cadre de vie. Mais il y a des Congolais qui sont à l'étranger, qui sont dans les pays voisins, qui sont en Ouganda, qui sont au Rwanda, qui sont au Burundi, qui sont en Tanzanie. Il faut faire un effort pour que ces ces Congolais-là reviennent dans votre pays. Mais il y a aussi des étrangers qui sont au Congo, qui viennent de ces pays-là. Nous avons donc une problématique de paix qui se pose non seulement en termes de sécurité, mais surtout en termes de réfugiés. Si on règle la question des déplacés et des réfugiés à l'est du pays, on aura résolu 70% de la crise qui est à l'est. Parce que ces jeunes gens-là qui sont recrutés, à partir de l'Ouganda, à partir du Rwanda, à partir du Burundi, de la Tanzanie, pour venir s'allier à certains pays pour attaquer le Congo, ces jeunes gens-là, parfois, on les trouve dans les milieux des réfugiés congolais qui ne peuvent pas rentrer ici si ce n'est pas le moment de la guerre. Les étrangers qui sont dans le pays, ceux qui sont instrumentalisés aussi pour attaquer non seulement les positions congolaises, mais aussi les pays vers lesquels ils viennent. La question des réfugiés et la question des déplacés est au cœur de la problématique de la sécurité à l'est du pays. Parce qu'il y a eu trop de déplacés, trop de réfugiés, alors l'insécurité, les viviers de la violence est assez disponible.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Madame Augustine Yenge, Monsieur Willy Kalengaï et Monsieur Abdourahman Dia. Merci aussi à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et Christian Lomombe et Didier Dadi sous la supervision d'Alex Sommé et Martin Sebujangwe, à la réalisation Leshe Walassa et à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Kapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Blandine, une composition de Ngiama Makanda Werason avec l'orchestre Wenge Musica Maison Mère, contenu dans l'album Kibisan Pipa. On se retrouve le samedi prochain.
Bambi, negative.